mes frères et sœurs. Bonjour, mes frères et sœurs. Voilà, nous sommes vivants, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, si nous avons nos téléphones allumés, si nous pouvons les mettre dans un mode de vibration, ça va nous aider de ne pas nous distraire. Et là, ça sera aussi pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes ici et je suis devant vous parce que nous voulons parler d'un sujet que nous aimons comme recevoir un cadeau. Et tout le monde aime recevoir un cadeau. Mais parfois, c'est triste si on donne un cadeau et puis la personne à qui on veut donner le cadeau refuse. Ça fait très mal à la personne qui a préparé et qui vient, qui voudrait donner le cadeau. Et par contre aussi, s'il y a beaucoup de personnes qui sont là, connectées, et qu'une personne vient et remet, tout d'un coup remet un cadeau à une personne ou à quelques personnes, laissant une personne ou deux personnes, je pense que ces personnes ou la personne ne sera pas contente. Et ce matin, nous voulons un peu explorer la grâce du Seigneur, parce que c'est un cadeau, c'est quelque chose qui est gratuit. Le passage aussi qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Éphésiens, à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Et alors, nous pouvons faire la lecture de ces textes. Moi, je vais lire à partir d'ici. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Par les actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans le monde, dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes.
Est-ce que c'est allumé?
Bon. Et il va m'aider. Excusez-moi. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a siégés ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc des raisons de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et notre thème s'intitule, à partir de ce passage que nous venons de lire, notre thème s'intitule « Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi, pour une vie riche d'œuvres bonnes. » Je reprends. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi, pour une vie riche d'œuvres bonnes. Mais pourquoi une telle thématique? Cette thématique nous invite à explorer la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous voulons voir cela. Le même thème, comme nous avons vu ici, les enfants sont allés plonger. C'est ce même thème que nous sommes en train d'explorer aussi au pays de merveille. Mais alors pourquoi, moi, j'étais intéressée à choisir cette thématique? Mais c'est parce que je pense que bientôt là, l'été va prendre fin et nous allons commencer une autre année ecclésiale. Et alors, peut-être que nous pouvons avoir une autre perspective, une perspective nouvelle pour cette année qui va commencer. Alors, nous allons exploiter avec cette perspective pour avoir qu'est-ce que cette grâce de Dieu va faire pour nous et qu'est-ce que nous, en réponse, nous pouvons aussi faire. Alors, ce passage est une petite portion de la missive, donc une lettre de Paul aux Éphésiens. Donc, Éphèse était réputée pour être un grand centre commercial, culturel et religieux. Et Paul, quand il a écrit cette lettre ou une missive ou épître, il était en prison lors de son troisième voyage missionnaire. Alors, dans tout l'épître, dans le verset qui précède notre péricope, donc péricope veut dire notre passage que nous venons de lire, Paul dit que Christ a reçu, donc le verset précédent, Christ a reçu une nouvelle vie. Il était ressuscité des morts, était assis à la droite de Dieu dans le ciel et que toutes choses étaient sous son autorité. Et nous pouvons voir ça si nous lisons au premier chapitre, verset 20 jusqu'à 22. Mais ce qui nous concerne, nous autres, c'est le passage, notre texte, notre péricope qui se trouve au chapitre 2, à partir du premier jusqu'au dixième verset. Mais alors, comment faire la connexion avec le chapitre, comme le premier chapitre? Comme nous venons de voir ici, le verset précédent nous parle de Jésus qui a eu la vie et qui est monté au ciel. Et maintenant, dans notre passage, le texte, quand nous commençons directement au premier et deuxième verset, nous avons, le texte marque une autre étape dans le développement de cet épître. L'apôtre Paul décrit la dure réalité de l'homme pécheur sans Christ. Et alors, le « mais » que nous avons lu, si nous suivons, il y a un « mais » au verset 4 qui introduit une volte-face très importante. Il y a un « mais ». Donc, ce « mais » veut dire que quelque chose va changer. Il y a une nouvelle manière de dire les choses. Quelque chose de nouveau va être produite. Et ça se dit, mais Dieu est riche dans sa bonté et dans son amour. Mais, et ça, le mais va changer tout ce qui est écrit aux deux premiers versets de notre péricope ou texte. Et alors, quand le maire s'introduit là-bas, qui change tout, alors ce qui suit, c'est une bonne nouvelle. Parce que premier et deuxième verset, c'était comme comment on est mort, comment on est ceci. Mais c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est la grâce de Dieu. C'est cette conviction que Dieu nous communique par Paul ce matin. Nous devons reconnaître notre nature pécheresse. Nous devons accepter par la foi la grâce. Et c'est là pour vivre une vie riche d'œuvres bonnes. C'est ça le message de ce matin. Mentionnons aussi en passant, en parlant de cette grâce, de ce message de ce matin, que c'est la grande conviction. La grâce, c'est la grande conviction de Martin Luther, le réformateur de l'Église au XVIe siècle. Et lui disait toujours, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Alors, notre message d'aujourd'hui s'articule autour de trois parties, et à savoir... La nécessité fondamentale, ça c'est notre première partie. La nécessité fondamentale. Et la deuxième partie, l'offre de Dieu. Et la troisième partie, la réponse de l'homme par rapport à cette grâce. La première partie, la nécessité fondamentale. Nous allons le voir dans le verset 1 jusqu'à 3, l'offre de Dieu 4 jusqu'à 7. Et la réponse que nous devons donner se trouverait à partir de verset 8 jusqu'à 12. Alors, que nous dit tout ceci? Ce que nous venons de voir, notre message, comment y aller, comment l'exploiter? Nous allons le faire. Alors, chacune de ces, nous allons l'explorer chacune de ces parties une à une. Alors, nous allons voir notre première partie, c'est que nous avons dit que une nécessité fondamentale. Alors, nous pouvons bien nous poser la question, quelle est cette nécessité alors? Nous pouvons directement répondre à cela carrément, parce que je pense que vous êtes en train de répondre aussi vous-même. C'est accepter et reconnaître notre impuissance. C'est ça, la nécessité fondamentale. Et nous pouvons lire maintenant le verset premier jusqu'au troisième verset. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous étions autrefois tous partis de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux, même et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Qu'est-ce que Paul est en train de faire ici? Dans ce texte, Paul, ce que nous venons de lire ici, Paul décrit l'état de ceux qui sont dans le péché. Et vous pouvez toujours dans votre Bible aussi explorer cela et voir l'état de l'homme qui se trouve dans le péché. Donc, Paul nous dit ici que il explique en termes de mort spirituellement. C'est ce qu'il dit. Donc, une personne qui est dans le péché, il est mort. C'est un homme mort. Mais comment spirituellement? Les verbes 1 et 2 expriment, comme nous venons de dire, clairement les actes ténébreux liés aux pratiques païennes, comme dans la région d'Éphèse. Et Paul, maintenant, quand nous lisons cela, résume toutes les activités par le verbe conformer. Conformer. Conformer, comme nous avons lu. Vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef de puissance spirituelle mauvaise. Et cet esprit, comme il dit, et ça travaille encore jusqu'à maintenant. Et conformer, ça c'est faire comme. Faire comme. Et pour Paul, il voit ça, c'est très grave, parce que quand on fait comme, on suit une autre personne. Donc, un chef pour l'homme pécheur, un chef qui est le chef, qu'est-ce qu'il dit encore? Le chef de puissance spirituelle mauvaise. Donc, quand on suit ce chef, on ne saura pas faire de bonnes choses. C'est faire comme nous venons de le dire, ou marcher selon une autre personne, imiter une autre personne. Et c'est tout ça sont des actes de païens. Quand on est païen, on ne peut suivre que le chef de mauvais esprit. Et c'est très grave, comme Paul le dit ici. Et au verset 3, Paul dit que tous, y compris lui-même, ils se mettent ensemble. Il ne dit pas tout simplement, il ne pointe pas les doigts auprès des autres, mais il se dit, Paul reconnaît que tous, y compris lui-même, étaient autrefois morts. Est-ce que les connaissons-nous? Donc, personne ne peut pas faire l'économie de la grâce de Dieu. Et dans ce verset, l'apôtre Paul s'associe à la condition de tous les hommes. Il ne se met pas à l'écart. Moi aussi. Donc Paul comprend ce qui se passe dans le monde du ténèbre parce qu'il était lui-même autrefois un. Et il est juif, mais tout comme les païens d'Éphèse, il était mort à cause de ses péchés. Et par conséquent, il était destiné à la colère de Dieu. Donc, ce qui se dit que quand on suit le chef des esprits mauvais, on est mort d'abord et on est destiné à la colère de Dieu. C'est comme cela que Paul conclut. Nous étions par nature, il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions produits, nous étions nés par les chefs des esprits mauvais. Ouf. Et alors, Rousseau avait dit, je pense que nous connaissons bien ces noms, Rousseau, lui, avait dit que l'homme n'est bon. L'homme n'est bon, pas n'est pas, mais il naît à la naissance. Il naît bon, mais que c'est la nature qui le rend mauvais, qui le corrompt. Et Paul dit que nous sommes corrompus par nature. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Nous sommes corrompus par nature. Et ce n'est pas que c'est la nature qui nous corrompt. C'est très grave quand on est corrompu par nature. Donc nous sommes mauvais par nature. Quel contraste entre ce que Rousseau dit et ce que Paul dit. Et pour ici, nous voyons que Paul accepte et reconnaît que tout le monde est pécheur par nature. Que tout le monde est pécheur par nature. Et par conséquent, destiné à la colère de Dieu. Donc, c'est inévitable quand on est dans cette condition. Alors, nous qui sommes croyants déjà, pouvons-nous dire comme Paul, maintenant que j'étais moi aussi, nous étions, tu étais, il était, ils étaient morts à cause du péché. Donc, si nous déclarons cela, nous reconnaissons qu'autrefois, nous étions dans un état de mort spirituelle causé par l'influence du monde, le prince de ce monde, le mauvais esprit. Et dans cet état, quand nous les reconnaissons, et nous pouvons voir ce que nous étions avant, autrefois. Donc, dans cet état, nul ne peut se sauver lui-même. Nul. Pour être sauvé, il y a quelque chose, et c'est ce que nous allons voir après. Mais nous devons d'abord accepter et reconnaître notre impuissance. Parce que, après tout, quand on est mort, on est mort. Quand on est mort, on est mort. Reconnaissons-nous notre état d'autrefois. Alors, ça nous amène à voir un peu, à exploiter notre deuxième partie. Parce que nous avons dit que tout à cause de mains que nous avons vues là-bas, ça nous a donné l'espoir. Que malgré tout ça, ça nous a donné l'espoir. Et nous avons intitulé le sous-titre de cette partie, l'offre de Dieu. Dans d'autres termes, nous allons voir la grâce de Dieu à l'œuvre en Jésus-Christ dans nos vies. La grâce de Dieu à l'œuvre en Jésus-Christ dans nos vies. Et dans verset 1er jusqu'au 3e, ça c'est l'état dépressif de l'homme qui est impuissant, mort, qui ne peut rien faire. Mais, fort heureusement, Dieu ne nous laisse pas sans secours, parce que l'homme est mort et sans secours. Mais, ses mains du verset 4 nous donnent l'espoir, parce que notre Dieu ne nous laisse pas sans secours. Il vient à nous. Alors, lisons les textes, parce que je ne veux pas que tout ce que je vais dire ici, ça provienne de ma tête. Lisons le texte. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés, il nous a fait revivre. Il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus par sa bonté envers nous. Comme j'ai dit tantôt, cette conjonction « mais » au début du verset 4 est très importante car ça montre le contraste entre ce que Paul venait juste de dire dans le verset 1 jusqu'à 4 et ce qui va suivre. Le contraste entre ce à quoi nous étions et ce que Christ va faire dans notre vie. Le message que Paul nous adresse est sans ambiguïté. Ce message, et nous voulons que cela aussi soit pour vous sans ambiguïté, pour que nous puissions comprendre ce que Paul veut nous dire. Paul veut nous dire ici que nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans la grâce de Dieu. Sommes-nous d'accord avec ça? Je pense que les croyants diront oui, sans hésitation. Parce que la grâce est le miroir dans lequel se reflète toute la compassion et la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est dans cette grâce-là que nous allons voir. C'est ça qui va refléter ce que Christ a fait pour nous, par son amour. Alors, nous pouvons juste illustrer ceci. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Amen. Nous ne voulons pas que nous soyons distraits. OK, merci. Nous allons illustrer cela. Prenons le cas d'un meurtrier condamné à mort. Il est condamné à mort et ce meurtrier est à la chaise électrique. Il est dans le couloir de la mort et le jour de son exécution approche. Il est coupable et résigné à recevoir la mort selon la justice. Parce qu'il est meurtrier. Mais voilà que le jour de la sentence, le président de la nation le gracie. Il est pardonné, réhabilité et libéré. Il n'y a plus aucune condamnation pour lui. Parce que le président s'est levé, il dit, non, il faut qu'il s'en aille. Il n'est plus condamné. Cet homme a fait l'objet d'une grâce excellente qui a rempli sa vie de joie, car il a été jugé et condamné à mort, fini, mais une autre personne l'a déclaré libre. Tu es libre, tu n'es plus condamné, tu ne mérites plus la mort. Et c'est moi qui l'ai dit, le président de la nation. Ouf! Je pense que cet homme-là devrait d'abord se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à ce qu'il voit qu'il est libre, il peut partir, et puis il est libéré. Quelle joie! Alors, voyons un peu une grâce qui a été offerte à cet homme. Mais maintenant, qu'est-ce que la grâce? La grâce, bon, c'est pour ceux qui étudient, je ne sais pas, grec ou quoi que ce soit, c'est traduit comme charis. Et charis, en français, nous allons plus le comprendre, c'est le charisme. Et charisme, c'est un don, un cadeau. Et quelle sorte de cadeau? C'est un cadeau immérité qui procure de la joie. Dans notre contexte, c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie que nous avons reçu de Dieu par Jésus-Christ. Alors, que nous dit Paul dans notre contexte à propos de ce que Dieu a fait pour nous en Christ? Le verset 5 et 7 nous dit qu'il nous a fait revivre. Ça, c'est la première chose. Il nous a fait revivre. Il nous a rendu la vie parce que nous étions morts. Maintenant, nous respirons et nous pouvons voir, nous pouvons marcher. Et au verset 6, la deuxième chose qu'il a fait, il nous a ressuscité et nous a fait siéger dans le monde céleste avec Christ. Et comment nous pouvons répondre ou comment comprendre ceci? Cela signifie que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, de croyants, c'est un privilège, un cadeau immérité. Et c'est comme... Comme Paul le répète, en Christ, il reprend ces termes maintes fois en Christ. C'est un terme clé dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Quand nous croyons en Jésus pour la vie éternelle, quand nous avons la foi, Dieu nous place en Christ. Et ceci pour transformer, parce que nos vies sont transformées. C'est comme nous avons vu au Pays des Merveilles, nous sommes en train d'exploiter cette thématique de la grâce. Et nous avons vu l'exemple d'un grain de sable dans une huître. Savez-vous ce que ça fait au grain de sable? Le grain de sable devient la perle. Juste le fait que ce grain de sable se trouve dans l'huître, c'est quelque chose de merveilleux. Et qu'est-ce qui devient... Donc, quand on cherche ces perles-là aussi, ils sont très rares. Et la perle est très valeureuse. C'est comme si notre vie en Christ, elle est transformée. Et ce que nous étions autrefois, nous ne le sommes plus. Et nous ne serons même plus reconnus. Parce que les gens vont se demander, mais est-ce que cette femme-là, cet enfant-là, c'est la même personne? Parce que sa manière de faire des choses, sa manière de parler, sa manière de servir Dieu a beaucoup changé. Mais qu'est-ce qui a changé en lui? C'est parce qu'il était un grain de sable, il est devenu un grain de sable dans l'huître et transformé à une perle valeureuse. Et au verset 7, nous allons partir rapidement. Dieu nous a sauvés afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté. Donc, c'est là, nous voyons que quand nous sommes en Christ, nous avons tout ce qui se trouve en Christ, parce que nous sommes placés en Christ. Nous pouvons, à cause de notre vie ici-bas, nous pouvons être à ce moment pauvres, ou malades, ou fatigués par des circonstances, mais nous ne serons jamais écrasés par quoi que ce soit. Alléluia! Amen. On ne sera jamais écrasé par quoi que ce soit parce que quand on a la vie, on a la joie Quand on a la vie en Christ, on a la paix. Et ça change tout en nous. Peut-être que toi, tu as déjà reçu la vie éternelle, mais tu as juste besoin d'être encouragé. C'est aussi possible, car Dieu va renouveler tes forces. Pour celui qui n'a pas encore reçu la vie, Dieu t'invite de venir recevoir la vie en abondance et tu vas être surpris combien tu seras envahi par le shalom qui est la paix de Dieu. C'est important pour nous tout ce que Paul est en train de nous dire. Alors voyons rapidement la troisième partie que nous avons intitulée « Comment répondre concrètement à cette grâce ?» Si Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour nous, nous avons vu que Dieu nous a fait revivre, donc il nous a donné la vie. Que Dieu nous a ressuscités. Et autre chose que nous avons vu. Alors, quelle est notre réponse? Ça, c'est notre troisième partie. Et nous allons lire rapidement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Parle-moi, ça c'est à partir du verset 8. Car par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous les avons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Pour notre réponse, Paul nous rappelle à avoir la foi. C'est ce que nous venons de lire. La foi nous amène à nous reconnaître pécheurs, incapables de nous conformer pleinement à la volonté de Dieu et enfin de devoir recourir à sa miséricorde pour espérer être sauvé. Ça, c'est la foi. Par la foi, nous acceptons aussi avec gratitude toutes ces grandes choses que Dieu a fait pour nous par la foi. Et autre chose, pour notre réponse, Paul nous rappelle à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Ça, c'est dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres. Mais nous devons savoir aussi que les bonnes œuvres ne produisent pas le salut. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, mais le salut produit beaucoup, d'ailleurs, de bonnes œuvres. La volonté de Dieu est que les enfants, ses enfants, le croyant que nous sommes, nous puissions être zélés pour les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres ne font pas le disciple. Les bonnes œuvres ne font pas le disciple de Christ. Mais les bonnes œuvres vont confirmer que celui-là est un disciple. Comment nous pouvons conclure ce passage? Est-ce que nous avons compris ce que Paul, Dieu, par Paul, nous a communiqué ce matin le message en peu de mots est que tout est grâce. Rappelons-nous que nous étions morts dans nos offenses, mais Dieu, par sa grâce, nous a rendu la vie par reconnaissance. Alors, par reconnaissance, nous sommes ainsi appelés à produire de bonnes œuvres, notamment à servir Dieu avec zèle. Voilà la perspective. Servir Dieu avec zèle. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Amen.